On s'en va dans le psaume 71. C'est là que on a pris le temps de lire au complet le psaume ce matin. Juste vous faire remarquer deux versets. Vous l'avez peut-être déjà remarqué parce que c'est en rapport avec le thème du mois. Il y a tellement ça regorge de belles vérités sur Dieu, sur comment il est notre espérance, notre secours. Mais justement, par rapport au thème du mois de juillet, au verset 5, ça dit « Car tu es toi, Dieu. Tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. » Puis regardez aussi au verset 14. « Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Et vraiment, on voit ici l'espérance du psalmiste, de cet homme qui avait vécu toute qu'une vie avec toutes sortes d'épreuves, mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. C'est le thème, c'est le titre aujourd'hui, l'espérance de ne pas être abandonné de Dieu. J'aimerais qu'on prie. On te remercie, Seigneur, du fait qu'on est réunis ce matin en ton nom, avec ta parole qu'on tient dans nos mains. Et merci que tu es celui qui est au milieu de nous, comme étant celui qui restaure, qui redonne une pleine espérance en toi, qui ranime la foi. Merci aussi que tu es celui qui secourt, qui délivre. C'est vraiment pas en vain, Seigneur, qu'on se confie en toi, qu'on s'attend à toi, parce que tu es le Dieu vivant. Et on vient à toi, Seigneur, avec cette pleine espérance, sachant que nous ne sommes pas abandonnés de toi, sachant qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous arrivent dans la vie, mais Seigneur, tu es tellement bon et fidèle, on peut toujours, toujours revenir à toi, se confier en toi. Et on te remercie, Seigneur, que c'est comme ça. Merci que tu nous donnes le privilège de te découvrir, d'apprendre de toi, à marcher avec toi, de découvrir comment tu es bon et fidèle, Seigneur. On vient à toi ce matin, alors qu'on considère ta parole pour être enseigné de toi, transformé à ton image. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, le passage qu'on vient, on a lu le psaume au complet, puis là, j'ai juste fait ressortir le thème de l'espérance. Mais vraiment, je pense qu'on peut voir dans ce psaume l'espérance que David avait de ne pas être abandonné de Dieu. Malgré des fois comment ça peut être difficile, cet homme qui avait vécu, qui avait vieilli, et qui continuait d'avoir des temps difficiles, parce que la vie sur Terre, on est dans un monde déchu. Faut pas s'attendre à ce que tout va devenir parfait comme ça, ici-bas sur terre, non. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu parfait, est un homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Et on voit là-dedans que malgré tout ça, l'espérance ne meurt pas, parce que Dieu ne meurt pas, il reste toujours vivant, fidèle et avec ses enfants. Et je dirais que pour nous, ici aujourd'hui, je pense qu'on a spécialement besoin du message que je vais vous partager, dans le sens où est-ce que pour beaucoup ici, nous sommes bons de différents parcours de vie, différents âges, différents beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que Dieu nous enseigne à tous un nouveau chemin. Pas un nouveau chemin comme s'il y avait quelque chose de nouveau en tant que tel à la vie chrétienne, mais d'apprendre à marcher par l'Esprit. D'apprendre à marcher pas avec nos ressources, ou comme on l'a vu la semaine passée, de marcher avec une foi enfantine et non pas comme un adulte qui pense en adulte en se confiant dans ce que lui a appris de faire. Et ça, ça s'apprend. Et Dieu nous l'enseigne. Et je pense que le message aujourd'hui va bien dans ce sens-là pour nous enseigner à avancer plus loin dans cette voie que le Seigneur ouvre devant nous. Et je vais illustrer ça par une image très simple. On voit en ce moment, il y a pas mal de champs où est-ce que, dépendamment où les cultivateurs sont rendus où, des fois les herbes peuvent être assez hautes. Et si on marche dans un de ces champs où est-ce que les herbes sont hautes, si vous allez là le matin, vous prenez une marche, si l'après-midi, je vais à cet endroit-là, je vais savoir que quelqu'un a marché là, parce que les herbes vont être encore écrasées. Si vous allez là deux fois par jour pendant un an, vous allez savoir que c'est votre sentier. Parce que ça va être devenu un sentier. Si c'est là pendant 20 ans, on va savoir que c'est vraiment un endroit qui est très fréquenté parce qu'il va y avoir même des ornières. OK? C'est ça, l'habitude comme ça va créer des ornières. Et c'est vrai dans le monde spirituel. On crée des ornières dans nos vies d'une manière ou de l'autre. On a créé des ornières dans le passé. On a eu des habitudes qu'on a développées et qui se sont tellement ancrées. C'est comme un sentier qui est tellement emprunté, comme ça fait des ornières. Et pour nous, on apprend à marcher dans un nouveau sentier. Ou pour prendre les mots d'oser, j'aime tellement ça. Écoutez, oser 10-12, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre sur vous sa justice. Se défricher un champ nouveau, en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, on développe des nouvelles habitudes. On marche dans un nouveau sentier au lieu du vieux sentier dans lequel on a toujours été habitué de marcher. Et ça, des fois, c'est inconfortable. Des fois, il y a de l'inconnu. Oh, ça fait peur quand on a de l'inconnu, hein? Mais c'est quoi, on devrait avoir jamais peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'inconfort, quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas spirituellement parlant, ça veut dire que Dieu, le Consolateur, est exactement à cet endroit-là pour nous rencontrer. Tu sais, si on n'avait pas d'inconfort, on n'aurait pas besoin d'être réconforté par le Consolateur. Donc, tant mieux quand on sort de des sentiers battus, qu'on sort de nos habitudes, parce que là, on peut apprendre par Dieu lui-même à marcher par l'Esprit. C'est ça, la marche par l'Esprit. Et, vous savez, on a appris depuis longtemps, et ça fait vraiment le pont avec ce qu'on a vu la semaine dernière, on a appris depuis longtemps à marcher selon nos ressources, nos raisonnements, nos mécanismes de défense. Non. Moi. OK? Et donc, on n'a pas appris à marcher en se confiant dans le Seigneur, marcher par la foi. C'est quelque chose qu'on apprend en tant que chrétien. Donc, il ne faut pas se surprendre. Si dans notre marche chrétienne, si vous êtes un enfant de Dieu, il ne faut pas se surprendre si des fois on trébuche, si des fois on tombe, si des fois on a de la misère. Parce qu'on peut être déçu, on peut être frustré de nous-mêmes parfois, en constatant des fois le peu de progrès qu'on fait, ou même des fois la régression qu'on peut avoir dans notre vie. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'en grandissant comme étant des fils d'Adam et des filles d'Ève, hein, on est dans ce monde comme étant en Adam et donc n'étant pas régénéré, bien, pendant tout ce temps-là, avant de connaître Christ, on a cru et on a marché dans tellement de mensonges. C'est devenu une seconde nature, c'est devenu une façon de penser qui nous est intégrée. Et ça a produit un sentier des ornières qui semble si naturel pour nous autres. On est habitué de marcher comme ça, puis, OK? Ça semble si naturel que toute autre façon de penser, de marcher, semble étrange. Et là-dessus, je vais vous dire une phrase, je vais la répéter à travers le message, mais on s'en rend compte dans l'épreuve. On s'en rend compte quand on est face à l'inconnu. Quand on n'a pas les ressources, justement, disponibles, on est au dépourvu. Et écoutez bien la phrase que je vais vous dire. Ce qui nous a pas par un coup dur finit par nous avoir à l'usure. Ce qui nous a pas... Tu sais, des fois, on a des coups durs dans la vie. Puis des fois, ça nous fait tomber, ça nous fait trébucher. Mais ce qui nous a pas comme ça par un coup dur, où est-ce qu'on s'appuie sur le Seigneur, on se relève, des fois, ça finit par nous avoir à l'usure. C'est pour ça que c'est tellement important, c'est vital de développer, de garder cette espérance dans le fait de pas être abandonné de Dieu. Il y a des coups durs, mais aussi il y a des choses qui nous ont à l'usure. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours avec nous. Il est un refuge, on l'a vu. Il y a tellement d'expressions dans les psaumes pour dire qu'il est un rocher, une autre retraite. Il est un bouclier. Et donc, tout ça, c'est ce que le Seigneur nous apprend lorsqu'on est un enfant de Dieu. Ou pour le dire autrement, le Seigneur nous apprend à nous tenir en lui. Savez-vous, c'est pas un hasard que dans ce fameux passage d'Éphésiens 6 sur la guerre spirituelle, sur l'armure spirituelle, puis tout ça, le Éphésiens 6, les versets 10 à 18, à trois reprises, ça nous parle de se tenir, de tenir ferme. En fait, ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 13, ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset suivant, ça commence en disant, tenez donc ferme. se tenir ferme dans la victoire que Christ a acquis pour nous. On n'essaie pas de gagner la victoire. Christ l'a remportée, mais on se tient. La marche chrétienne, c'est de se tenir dans cette victoire. Et c'est la clé de la victoire spirituelle, se tenir ferme dans la victoire que Christ a remportée pour nous autres. Notre rôle, c'est pas d'essayer de gagner la victoire, c'est de rester dans ce territoire que Christ a conquis pour nous autres. Notre frère le disait tantôt, on a déjà tout. On a tout pleinement en lui. C'est pas lui qui a inventé ça un matin en priant, là. C'est dans la parole de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Et donc, c'est de se tenir dans cette plénitude, dans cette vie abondante et merveilleuse que le Seigneur a pour nous autres. Donc, on va voir avec ça ce matin trois façons de se tenir dans l'espérance de ne pas être abandonné de Dieu. Des fois, ça arrive, on peut être découragé, puis arriver des choses, on dit, est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, on peut avoir, puis l'espérance, c'est pas, oh, j'espère que Dieu ne m'a pas abandonné. Non, c'est, l'espérance, c'est la foi qui ne voit pas encore, mais qui est tellement certaine. Est-ce qu'ici, il y en a qui espèrent que le Seigneur va revenir bientôt? Amen. Hey, amen, hein? Mais c'est pas, j'espère donc qu'il va revenir, peut-être qu'il ne va pas revenir. Non, c'est qu'on l'attend, on sait que ça va arriver. C'est juste une question de temps, on est dans l'espérance de son retour. C'est réglé, c'est sûr qu'il va venir, c'est juste qu'on ne sait pas quand exactement. OK? Ben, c'est la même chose pour la vie chrétienne. L'espérance de ne pas être abandonné de Dieu. Peu importe ce qui arrive, on sait que Dieu ne nous abandonne pas. Donc, la première façon de se tenir, c'est se tenir, et écoutez bien, là, je vais dire quelque chose, puis je vais voir si ça va déclencher des choses dans votre pensée. Se tenir irréprochable dans la présence de Dieu. Irréprochable. Qu'est-ce que souvent on pense quand on entend ça? Ah, mais moi, je suis pas... On regarde à nous. Ah, je suis pas irréprochable, puis je peux pas me tenir. Là. On va parler là-dessus un petit peu. Mais je veux juste vous rappeler la phrase que j'ai dit tantôt, en commençant. Ce qui ne nous fait pas tomber par un coup dur, finit par nous avoir à l'usure. Et c'est précisément dans ces moments-là, ces moments d'usure, que c'est vital de se rappeler de la disposition de Dieu envers nous. Savez-vous que même dans les pires moments de notre vie, la disposition de Dieu envers ses enfants n'a pas changé d'un iota. Et c'est d'ailleurs ce que Jérémie se rappelle dans le fameux passage de Lamentations 3, où est-ce qu'il dit... Voici ce que je veux repenser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle de qui Dieu est. Il est bon, il est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, il n'abandonne pas les siens. Et l'espérance de ne pas être abandonné, elle est justement là. Lorsque l'usure nous a, lorsque les coups durs puis l'usure nous prennent puis nous tirent vers le bas, et lorsqu'on est, non seulement qu'on sait, mais qu'on est convaincu que Dieu n'a pas changé de disposition avec nous autres, que Dieu nous traite avec la plus grande des dignités, le plus grand des honneurs, la plus grande des valeurs. C'est pour ça que rien ne peut changer sa disposition envers nous parce qu'il est en relation avec nous en Jésus-Christ, selon son Fils. Ça ne peut pas être... mieux que c'est là, c'est déjà parfait. Et d'ailleurs, on pourrait même pas nous-mêmes, en perdant notre salut ou en faisant quelque chose qui nous enlève la disposition de Dieu, on pourrait pas nous-mêmes défaire cette disposition de Dieu. C'est Dieu qui, lui-même, a cette disposition envers nous. Et ça réconforte, parce que sinon, si je regarde à moi, ah, ben là, j'ai fait quelque chose qui fait que Dieu n'est plus disposé envers moi. Non, Dieu lui-même, de sa propre volonté, décide qu'il est disposé envers nous d'une telle façon, et cette façon-là est déterminée par comment il est disposé envers son Fils lui-même. Fait que si un jour Dieu change de disposition, Dieu le Père envers Dieu le Fils, là, ça veut dire que là, il n'aura plus une bonne disposition envers vous autres. Vous me ferez signe quand ça va arriver, là, parce que ça ne va jamais arriver. OK? Vous ne me ferez jamais signe. Maintenant, je vais vous illustrer ça avec juste une image ici. Dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises, lorsque Dieu se présentait à quelqu'un, hein, des fois il y avait des visions, des fois c'était un ange qui se présentait à la personne, un prophète, différentes personnes. La façon typique souvent des gens de répondre à cette présence de Dieu, bien évidemment, c'était de s'humilier, de tomber sur leur face. Et pour cause, parce que la présence même de Dieu ou de son ange, ben, leur rappelait leurs propres péchés, leurs défaillances, et donc le besoin de miséricorde, d'où tomber sur leur face. Et C'était même la réaction aussi de Jean dans l'Apocalypse avec toutes les grandes révélations que Dieu lui a données. Mais ayant ceci en tête, écoutez bien ce que ça nous dit dans Jude. Jude, il n'y a pas de chapitre, là, donc au verset 24, ça dit « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute, et écoutez bien ce que ça dit ensuite, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » Ça, c'est une joie ineffable. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Nous faire paraître devant lui irréprochable et dans l'allégresse. Le premier point de notre message, c'est de se tenir irréprochable dans la présence de Dieu. Et on voit qu'à cause de l'œuvre parfaite et complète de Jésus-Christ en notre faveur, on peut se tenir devant Dieu sans reproche. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné sa justice. Il nous a lavé de tous nos péchés. D'où les expressions qu'on voit. Puis là, je vous amène deux passages d'Hébreu. Parce que dans Hébreu, c'est beaucoup amené toute l'idée comment on s'approche de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était tout imparfait avec les sacrifices qui étaient toujours à recommencer. Puis l'auteur d'Hébreu nous dit, maintenant, là, c'est parfait. Parce que Jésus a ouvert l'accès à Dieu. Maintenant, ça dit au chapitre 4, Hébreu 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. » Puis écoutez aussi au chapitre 10, je commence au verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Ça, c'est la présence même de Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé du nos peu. Est-ce que ces versets-là, ça sonne comme... J'ose pas trop me présenter devant Dieu, je suis plutôt reprochable que irréprochable. Non, c'est l'invitation à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont lavés dans le sang de Jésus, les enfants de Dieu, à s'approcher avec hardiesse, avec une pleine assurance, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et ça nous dit dans le même chapitre, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ça, mes amis, c'est l'assurance de ne pas être abandonné de Dieu. Que Dieu, quand même que nous, on n'est pas, on est loin d'être parvenus, on est loin d'être parfait. Notre standing devant Dieu, notre position devant Dieu, c'est une position irréprochable. Et rajoutons à ça, dans l'allégresse, on peut se tenir avec lui dans la joie d'avoir été gracié, pardonné par Jésus-Christ. Maintenant, toujours dans Hébreu, écoutez ceci. J'ai pas fini, il y a du bon stock dans Hébreu par rapport à la présence de Dieu. Au chapitre 7 et verset 18, ça dit, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, ça c'est l'Ancien Testament, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. » Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça, c'est tellement vital. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Satan nous dit lorsqu'on pêche? Lui, l'accusateur des frères. Hein, on apprend que son rôle, là, on apprend ça dans Apocalypse 12-10, c'est l'accusateur des frères. Jour et nuit! Il accuse devant le Père. Ben, Satan, là, il nous fait croire, il veut nous présenter Dieu comme quelqu'un d'inapprochable et d'implacable. Ah, t'as péché, t'as-tu vu? Puis là, il nous accuse. Puis là, on dit, ben oui, c'est vrai, ça tombe pas de bon sens. Dieu doit tellement pas être content de moi. Mais que fait Dieu dans la même situation? À la lumière de la Nouvelle Alliance. Écoutez la réponse. Hébreux 12. À partir du verset 18, « Vous nous êtes point approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ça c'est le mont Sinaï, c'est l'ancienne alliance, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration « Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle est si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté, tout tremblant. » Mais, verset 22, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Donc, qu'est-ce que Dieu fait lorsque Satan nous accuse, lorsqu'on se sent nous-mêmes accusés par notre propre conscience, lorsqu'on pêche? Bien, nous rappelle qu'en vertu de la nouvelle alliance, en vertu du sang de Jésus, on peut se tenir devant lui de façon irréprochable. Parce que c'est lui qui a ouvert le chemin, c'est lui qui nous a fait rentrer. Ça, mes amis, il faut qu'on se le rappelle, parce que comment que les chrétiens se découragent, abandonnent, tombent, bronchent, c'est quand ils oublient ça. C'est quand ils tombent dans la mentalité de la performance, où est-ce qu'ils disent, ben là, j'ai pas performé, donc Dieu est pas content, donc, puis là, c'est une pente descendante qui nous tire vers le bas. Puis n'ayez pas peur, si quelqu'un pense de même, il va pas faire... S'il apprend à ne pas penser de même, il ne va pas faire. Il ne va pas essayer d'excuser le péché puis faire comme si le péché n'était pas important dans sa vie. Non, parce que la deuxième. Tu sais, dans le fond, s'enorgueillir puis dire ben, je vais pécher afin que la grâce abonde. Non, parce que la deuxième façon de se tenir devant Dieu nous rappelle ça. Non seulement on se tient de façon irréprochable devant Dieu, mais par le Saint-Esprit, on se tient humblement devant Dieu. Se tenir humblement par le Saint-Esprit. Et encore là, on voit un peu des parallèles avec ce qu'on a vu la semaine dernière avec Abraham dans Genèse 22. La posture spirituelle que nous devons rechercher devant Dieu, selon justement ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est celle d'un enfant. On est des enfants de Dieu. Et comme l'image de la brebis, tu sais, Dieu nous donne des images de nous-mêmes. Là. Ah, le Seigneur est mon berger. C'est flatteur pour le berger, mais c'est pas flatteur pour la brebis. Ben même pour un adulte, déjà ici, là, tu sais, qu'on a appris là, toutes sortes de choses dans la vie, de se faire appeler un enfant et dire tu dois être un enfant, ben c'est pas très flatteur. Ça vient pas chercher une fibre en nous comme hey, wow, moi, je suis tellement content d'être comme un petit enfant dépendant qui décide de rien. Donc, savoir ce que je disais tantôt, c'est pas dans le sentier qu'on est habitué. Tu sais, le sentier avec l'ornière qu'on est habitué de passer, c'est un nouveau sentier, c'est un champ qu'on défriche. Mais c'est là que Dieu nous amène. C'est lui qui nous amène à ce champ nouveau. C'est pas flatteur, mais c'est surtout réconfortant. Ah, je suis un enfant, mais je suis un enfant du meilleur des papas qu'il n'y a pas dans le monde, dans l'univers. Ça, c'est réconfortant. Maintenant, je vais vous amener une autre illustration qui, j'espère, va vous aider à comprendre un peu ce que je veux dire là. Si je marche de même comme ça, je peux-tu penser à quelqu'un? Vous devriez voir comment la petite Lydie en court. À gambade! Elle court pas à gambade! Tu sais, on apprend à marcher, n'est-ce pas? Ben, quand on apprend à marcher, là, puis pour les côtes, c'est quand même assez... Ben, puis elle était ici aussi, fait un petit bout. En tout cas, Cédric, tu sais, quand ils commencent à marcher, puis ils sont de même, puis ils font deux, trois pas, paf, ils tombent, puis... Imaginez-vous, là, le parent, il est là, puis il y a une petite distance, mettons, à peu près comme ça, là. « Hey, viens-t'en, là, viens-t'en! » Puis là, il se tient, puis là, « Ouh, il part dans le vide, puis là, il fait 3-4 pas, puis il réussit à se rendre à nous autres. » Là, imaginez-vous la scène, le petit bout de chou est là, puis là, « Viens-t'en, viens-t'en! » Puis là, il tombe après 3 pas. « Ben, voyons donc! »« C'est pas de faire 10 pas alors que t'es rendu, voyons, là! » Puis là, il engueule son fils, sa fille. Vous comprenez très bien que ici l'image est ben non. Parce que c'est un tout petit qui apprend à marcher. Qu'est-ce qu'on fait quand il tombe? Hey, c'est beau, continue là! Enlève-toi puis t'es capable, puis qu'est-ce qu'on fait? On a une disposition favorable parce qu'on sait que c'est rien qu'un petit enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Savez-vous que notre Père Céleste, écoutez bien ça, là. C'est exactement, il y a la disposition qu'il a envers nous autres. Il sait qu'on est des petits enfants qui sont dans un nouveau sentier, on ne sait pas comment ça marche. Puis des fois, ça peut faire 30 ans qu'on est sauvé, puis on apprend pareil comment ça marche. Soyons honnêtes.
Moi, j'ai dit 30, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 5, ça peut être 2. C'est pas le nombre qui compte, c'est l'idée d'apprendre cette marche par l'esprit, cette marche d'un enfant. D'un enfant avec son Père céleste. Mais comprenons bien l'image ici. Dieu est disposé comme ça par rapport à nous qui apprenons à marcher par l'esprit, qui apprenons à s'appuyer non sur nos ressources, mais sur les siennes. Puis, c'est important de se le rappeler parce que la Bible nous dit, ça le mot, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, broncher, je pensais à quelqu'un qui toussait, là, parce bronchite ou je ne sais pas trop. Là. Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, il essaie de parler, puis là, il tousse. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Broncher, là, ça veut dire faire un faux pas, trébucher. OK? Donc, on apprend tous cette nouvelle façon de marcher, puis on bronche tous. On trébuche, puis on tombe, puis on fait un faux pas. Puis ça, je l'ai souvent dit, là. Il y en a qui font telle sorte de faux pas. Il y en a qui font d'autres sortes de faux pas. Puis il y en a qui trébuchent de cette façon-là. Puis il y en a qui trébuchent de l'autre. Puis là, moi, vu que je suis tellement bon, là, je vais regarder l'autre que lui. Hey, toi, tu vis, il est donc bien poche. Lui, il trébuche avec ça. Puis après ça, l'autre, et deux, trois jours passent. Puis il me voit que moi, je me pensais tellement bon. Puis paf, je trébuche. Avec une autre affaire que lui, ça le fait rire. Parce que lui, il n'y a pas de misère avec ça. Vous voyez ce que je veux en venir? On trébuche tous de plusieurs manières, mais pas toutes la même manière. Fait que ça veut simplement dire que on est tous en train d'apprendre le renouvellement de l'intelligence. On est en train d'apprendre les voies de Dieu avec essai et erreur. Et des fois, on a de la misère. Mais savez-vous, on est tellement content que notre Dieu soit patient, que ce soit comme ce Père. Soit aussi comme ça les uns vers les autres. Au lieu de rire de l'autre et de dire « Fais donc bien Dieu », puis elle, comment ça qu'elle est comme ça, puis tout ça. Ayons cette même disposition favorable envers nos frères puis nos sœurs, qui, oui, des fois ont de la misère avec des affaires que nous, on trouve ça donc bébé fafa. Mais on n'a juste pas le même problème. Soyons pleins de grâce et de bonne disposition les uns envers les autres. Mais au-delà des relations humaines, là, avec toute leur imperfection, là, n'oublions jamais, là, dans toute l'aventure de la foi, là, apprendre à marcher par la foi, là, le juste vivra par la foi, là, dans toute cette aventure-là, notre Père céleste est notre plus grand supporteur et notre plus grand allié. Il est là, là puis il nous appelle constamment à lui, là, viens, viens, fais-moi confiance, vas-y, fais le pas que je te demande à faire. Il nous appelle à lui. Puis quand on arrive dans ses bras, on dit « Wow, t'es tellement bon! » Puis là, on découvre notre Dieu, puis on se réjouit dans ce que tout ce qu'il est en train de faire avec nos vies. Et ça, ça n'a pas de prix. En fait, c'est ça la plus grande récompense de la vie chrétienne, c'est de découvrir le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, puis qui continue constamment de nous délivrer de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est ça l'espérance, la certitude de ne pas être abandonné de Dieu. Il est toujours là avec nous autres. Donc, ça nous amène à nous tenir de façon humble par le Saint-Esprit. Ça m'amène au troisième point ce matin. Non seulement se tenir de façon irréprochable devant Dieu, se tenir humblement par le Saint-Esprit, mais aussi se tenir confiant par l'œuvre de Jésus-Christ. Un message trinitaire ce matin. Irréprochable devant Dieu le Père, humblement par Dieu le Saint-Esprit et confiant par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On peut se tenir confiant parce que Christ a fait de nous des saints. Il nous a lavés. On est totalement acceptés dans le bien-aimé par l'œuvre de Christ, donc on peut être confiant. Pas chancelant, mais confiant à cause de l'œuvre de Christ en notre faveur. Et ça, cette confiance-là, cette bénédiction-là, c'est la base de ce qu'on lit dans Romains 5, 17. J'ai dit que ce verset-là, c'est tellement merveilleux. C'est un grand négligé de la parole, en tout cas dans ma vie, là, je veux dire, comment ça que j'ai pas plus médité ce verset-là? D'ailleurs, il faudrait que je l'apprenne par cœur. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, puis là, ça parle d'Adam, parce que c'est la discussion qui est dans Romains 5,
comparaison d'Adam et de en Adam puis en Jésus. Ça dit à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ça c'est tout ce qui est en Jésus-Christ. Donc à plus forte raison, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Régner dans la vie. Ça là, c'est la bonne nouvelle de ce que on est en Jésus-Christ. En tant que chrétien, c'est constant, c'est toujours, on peut être confiant de ce que Dieu a fait de nous autres en Jésus-Christ. Puis là, à ce sujet-là, je vais amener quelque chose. Tu sais, la bonne nouvelle. Des fois, on dit ça, hey, ça c'est bon, la bonne nouvelle pour les non-sauvés. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais je veux juste revenir sur le simple mot « nouvelle ». Bon, moi, je n'écoute pas trop les nouvelles, là, parce que je pense qu'on est pas mal d'une église de personnes qui n'écoutent pas trop les nouvelles, en tout cas. Ouais. On va pas mettre une étiquette là-dessus parce que ça commence par C puis ça finit par IST. Puis au milieu, c'est OMPLOTIS. Je l'ai pas dit, ça sera pas banni sur YouTube. Non, mais une nouvelle. La bonne nouvelle. Est-ce que la nouvelle nous dit, hey, faut que vous fassiez ici, vous fassiez. Ben là, ouais, là, je suis en train de me tromper moi-même parce que beaucoup les nouvelles pendant 2 ans, ça nous disait, faut que vous fassiez ici, puis faut pas faire ça. Mais une nouvelle, normalement, ça nous dit ce qui est arrivé, ce qui a été fait. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas, hey, t'as besoin de faire ça, puis ça, puis ça pour que Dieu soit content. Non, la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a fait. Puis c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est accompli, c'est déjà fait. Puis on se confie là-dedans, c'est déjà arrivé, ça a été fait. Tout est accompli. En fait, c'est la nouvelle de ce que, du fait qu'on était sorti d'être en Adam, qu'on est maintenant en Jésus-Christ. On était placé en lui. On a reçu une nouvelle justice qu'on n'avait pas, une nouvelle identité. On a été libéré du joug, du contrôle, de l'esclavage, du péché, de la loi puis de la chair. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est pas comme t'as besoin de faire quelque chose pour que ça arrive dans ta vie. Non, non, c'est une nouvelle. Là. C'est passé puis on en bénéficie. C'est la bonne nouvelle. Et donc, on n'est plus sous le joug de notre chair, de la performance, mais on est placé sous le règne de la grâce. On vient de le voir ici. Le règne de la grâce. Je le relis à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul? Pour le mettre dans d'autres mots, c'est d'être sous le contrôle bienveillant et rédempteur du Dieu de toute grâce. C'est être uni à Jésus-Christ dans sa vie et dans le règne de sa vie sur nous autres. C'est le règne bienveillant de celui qui fait toutes choses de façon merveilleuse. Et ça, c'est l'espérance de ne pas être abandonné de Dieu. On peut être confiant. La bonne œuvre que Dieu a commencée en nous, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Et je termine avec une simple pensée ce matin. On peut dire, ah ouais, je suis content, j'entends des belles vérités sur la parole de Dieu, puis tout ça, mais savez-vous quoi? La clé, le secret pour en jouir pleinement, c'est simplement d'y revenir, d'y repasser, de retourner là. On parle de défricher un champ nouveau, de remarcher constamment dans cette personne, pour prendre d'autres mots, saturer nos cœurs de ces vérités-là. Saturer nos cœurs, nos pensées, du fait qu'on se tient devant Dieu de façon irréprochable à cause de ce qu'il a fait de nous autres. Évidemment, on se tient de façon humble parce que le Saint-Esprit nous rappelle tout le temps qu'on est des enfants, qu'on apprend, puis qu'on, oui, des fois, on bronche. Mais on peut être confiant parce que on se tient par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ça, saturer nos cœurs de ça, revenir à ça, repenser sur ce sentier, ça nourrit l'espérance du fait que peu importe ce qui arrive dans les aléas de la vie, dans les attaques spirituelles, les déceptions relationnelles, on n'est pas abandonné de Dieu. C'est pas la preuve que Dieu nous a abandonnés. En fait, quand on repense ces vérités dans nos cœurs, c'est la preuve que Dieu nous aime, puis il s'occupe de nous, puis il fait juste nous rappeler, hey, t'as encore besoin de moi. Hey, j'ai pas fini d'avoir des rendez-vous avec toi. Je suis là. Confie-toi en moi. Tourne-toi vers moi. Et tu vas être rayonnant de joie. Autrement dit, Dieu nous ramène tout le temps là où il veut qu'on soit, dans sa présence, dans la dépendance d'un enfant de Dieu, d'un petit enfant avec son Père. Et qu'on puisse apprécier ça. Il y a une beauté, il y a une bénédiction là-dedans. Il y a quelque chose de bienfaisant, il y a vraiment un réel bonheur à se remettre, se ramener tout le temps dans cette position-là face à notre Dieu. Non, il ne nous abandonne pas. Non, il n'est pas mauvaisement disposé envers nous. Il est favorablement disposé envers nous. Et j'ai deux questions pour terminer. Est-ce que tu connais cette grâce d'être sauvé par Jésus-Christ? Je pense que la majorité ici vont dire « Oui, j'ai été sauvé un jour par la grâce de Dieu. J'ai mis ma foi en Christ et je suis né de nouveau par sa grâce. » Amen, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas sauvé, si le Saint-Esprit vous montre, non, tu n'es pas encore en Jésus-Christ, tu n'es pas encore sauvé, tournez-vous vers lui, confiez-vous dans son sacrifice parfait. Et si vous êtes ici et vous êtes un enfant de Dieu, voici ma question pour vous. Est-ce que tu l'apprécies? Savez-vous ce qui arrive souvent? Je reviens avec mon sentier, j'étais parti avec ça au début. Des fois, on n'apprécie pas le sentier de Dieu parce qu'on dit « Mais là, il y a des mauvaises herbes là. » Puis, voyons, c'est pas aussi confortable que mon bon vieux sentier qui était tellement... Je pouvais marcher les yeux fermés là-dedans. Et avec Dieu, voyons, ça, c'était pas supposé être là dans le sentier. Mais il me semble que c'est pas normal que ça soit le même un sentier quand on marche. Puis là, on n'apprécie plus. Parce que nos yeux sont sur les mauvaises herbes, les roches, ou pour le dire autrement, les problèmes... Les déceptions, les ci puis les ça. On n'apprécie plus la grâce de Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas plein de grâce, ça. À cause du sentier par lequel il nous fait passer, on regimbe, puis on perd ce cœur d'enfant qui dit « Bien, moi, je sais pas où je m'en vais, puis je suis mon papa, puis je le prends par la main, puis c'est lui qui décide où ce qu'on va, puis où ce qu'on va, bien, c'est là qu'on est supposé d'aller. » Quand on perd ça, on perd l'essentiel. C'est-à-dire avoir les yeux sur celui qui nous a sauvés. Puis s'il nous a sauvés, faites-vous-en pas. Il va nous guider, il peut nous garder, puis il va faire tout le reste. Donc, est-ce que tes yeux sont sur le Seigneur? Est-ce que tu en apprécies toute la grâce, la bonté? Et ça m'amène à terminer avec ce verset. Je l'ai lu tantôt, mais je le relis. En fait, ces deux versets-là, et c'est ma conclusion avant que je prie. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ah Seigneur, merci que on a ta parole qui nous ramène dans le bon sentier. Merci Seigneur que toutes tes voies sont parfaites, ta parole est éprouvée et tu es un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi. On ne veut pas enlever nos yeux, Seigneur, de sur toi. Oui, tu as un sentier pour chacun de nous. Tu nous appelles à défricher un champ nouveau. Les ornières ne sont pas nécessairement très formées nécessairement pour la marche par l'esprit, mais ce n'est pas grave parce que tu es là. Et on sait, Seigneur, on le sait, tu ne nous as pas abandonnés. Merci pour ça. Merci que peu importe ce qui peut arriver, Seigneur, on sait que tu gardes toujours cette disposition favorable, parfaite envers tes enfants. Parce qu'ils sont en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et rien ne peut changer ça. Rien. Aucune condamnation, aucune séparation. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Et s'il y en a ici ce matin qui ne te connaissent pas, comme leur Sauveur, qui ne connaissent pas la vie que tu donnes, qui n'ont pas goûté comment tu es bon, Seigneur. Qu'ils soient ici ou qu'ils ne soient pas ici, on prie pour eux. On prie de toucher leur vie, te révéler à eux, les sauver. Seigneur, qu'ils soient nés de nouveau, nés d'en haut par l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, on s'en remet à toi, on s'attend à toi, on t'invoque notre Dieu. Et merci que tu es là, toi, le héros qui sauve, qui garde pour nous des transports d'allégresse. On te bénit, on te loue. Au nom de Jésus. Amen.